France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il faut se garder des comparaisons trop faciles. Le foot, c'est tout le temps. Les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans, une fois tous les 100 ans, même en France. Donc les différentiels d'enthousiasme se mesurent aussi à ça. Mais c'est vrai qu'on a souscrit un shoot de joie cet été quand on regarde se lancer la nouvelle formule de la Ligue des Champions. La première journée, c'est demain. Est-ce qu'on dit chouette, chouette, le foot revient? Ou est-ce qu'on dit, bon, c'est moins marrant? Essayons de nous éviter le cliché des 11 milliardaires en short qui courent après un ballon parce que ça va pas nous faire avancer. Mais demandons-nous plutôt, et c'est le sens de cette émission, si le foot est toujours un vrai sport populaire. Si quand on aime le foot, on s'y retrouve encore. Si une ville en quête d'identité choisit toujours de miser sur le foot, le club qui lui ressemble. Ou si les grands enjeux financiers, les droits télé, les plateformes, les abonnements multiples, les transferts de joueurs qui font désormais que sans une fortune immense derrière lui, un club aura du mal à survivre. Si tout cela a oublié en route que le foot professionnel n'est rien sans ses supporters. Je reviens au JO parce que ça m'a frappé, à l'exception de d'Antoine Griezmann, qui est un vrai fou de sport, qui a encouragé tous les sportifs pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le hashtag devenu viral alerte médaille, c'était lui. À l'exception notable donc de Griezmann, est-ce qu'on a entendu un footballeur s'enthousiasmer pour les autres sportifs? Est-ce qu'on a vu, comme David Beckham en 2012 à Londres, une immense star de l'équipe de France s'essayer au Cécy Foot par exemple? Comme si le foot décidément était vraiment à part. Tellement à part que même ses joueurs ne se mêlent plus au reste du monde, que si leur contrats sont monumentaux, ils imposent aussi qu'ils sont moins libres de leurs mouvements et peut-être aussi de leurs enthousiasmes, phagocytés qu'ils sont par des clubs qui ont misé sur eux comme sur des chevaux de course aux jarrets fragiles. Le football est-il encore un sport populaire? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Rémi, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Rémi.
Bah écoutez, oui, j'ai bien cerné le sujet et c'est vrai que votre introduction apporte déjà pas mal de compléments d'informations. Moi, je voulais parler de trois choses sur le fait que le football est bien encore populaire. Comme vous l'avez dit, il y a justement l'identité, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un monde où à la fois on veut être non-genré, on veut pas avoir une identité trop forte pour être assez universel, mais d'un autre côté, on a quand même pas mal de gens qui ont envie de revendiquer leur appartenance, leur identité régionale, et c'est pour ça aussi que les stades en France sont pleins. Alors évidemment, quand je dis plein, on parle de première division, des grands clubs, mais aussi des clubs qui financièrement sont tombés comme Strasbourg ou comme aujourd'hui Bordeaux. Ils ont toujours des supporters qui vont venir au stade et qui vont faire en sorte que le peuple l'emporte finalement.
Mmh. Et vous êtes d'où? Vous êtes à Nantes, c'est ça, Rémi? Vous allez au stade?
Moi, je suis à Nantes. Oui, je vais à la Beaujoire plusieurs fois par an, et puis je suis marseillais d'origine, donc je suis aussi pas mal l'OM dans la région. Je me déplace à Rennes, je vais voir Marseille à Nantes, voilà, des choses comme ça. Ou quand je suis à Marseille, je vais au stade Vélodrome, évidemment.
Merci beaucoup Rémi, merci pour cette entrée en matière qui va pouvoir entamer notre discussion ensemble jusqu'à 20h. Et pour en parler, il y a François Darrocha-Carniero, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien du football, vous êtes chercheur à l'Université d'Artois, vous avez écrit notamment, et qui sort ici, là maintenant aux éditions du Détour, Un peuple et son football. Il y a Kylian Valentin qui est là aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau de l'Association nationale des supporters, Xavier Monferrand. Salut Xavier.
Salut.
Journaliste à la direction des sports de Radio France. Merci à tous les trois d'être avec nous. C'est vers vous que je vais me tourner, François Darrocha-Carniero. Oui, nous dit Rémi, absolument. Le foot est toujours populaire. Il y a encore des gens dans les stades et ça marche toujours. Ce que vous diriez, absolument. Au moins, ce foot-là tient toujours la route.
Il y a encore des gens dans les stades. Il y a encore des spectateurs pour payer. Parfois très cher pour voir le match, mais également pour participer à l'expérience stade, ce qui est un concept relativement récent. Également, on peut penser à certains stades qui attirent beaucoup de spectateurs qui ne sont pas des supporters.
Juste pour aller au stade et le voir au moins une fois dans sa vie. Ouais.
Et pour voir des stades particulièrement mythiques, des publics particulièrement mythiques. Il y a toujours un public pour aller voir des matchs de football. Maintenant, est-ce que l'identité va suffire à remplir le stade? Ce n'est pas du tout certain.
Est-ce que ça existe encore? Alors, enfin, j'ai l'impression d'avoir la réponse. En même temps, je pose la question. Mais à un moment, les Sochaux, les Saint-Étienne, tout ça, ça marquait l'identité de la ville. Le club allait avec. On pouvait pas séparer l'un de l'autre.
Ça existe toujours. Lorsque l'on va à Sochaux, bien qu'il soit aujourd'hui en national, Sochaux est toujours marqué lorsqu'on va dans les cafés de Sochaux. Je pense au Central en particulier, qui est un café qui m'est cher. Ouais. On parle toujours du résultat de la veille.
Ouais.
À Saint-Étienne, pareil. À Lens, pareil. Mais il faut voir aussi de quelle ville il s'agit. Ce sont des villes qui ont finalement assez peu d'occupations autres que le football.
Ouais, et aussi des clubs qui ont beaucoup périclité. Xavier Monferrand, parce qu'il n'y a jamais eu un milliardaire les poches pleines qui a été les récupérer, on va dire les choses un peu honnêtement. À un moment, ça dépend quand même du gars qui a les poches pleines ou pas?
Oui, ça dépend effectivement. Il y a pas mal de cas, dans un sens comme dans l'autre, en fait, de voir des... On a vu par exemple le Red Star racheté par un groupe américain, un fonds d'investissement de la Floride qui s'est finalement patatras. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et d'autres qui font effectivement tombent en désuétude. J'ai une pensée pour Niort, qui est en liquidation judiciaire, les Chamois Niortais. Alors évidemment, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas Saint-Étienne, c'est pas Lens, mais les Chamois Niortais sont en train de totalement péricliter. Voilà, c'est devenu malheureusement une loterie là-dessus.
Et Kylian Valentin, vous qui êtes membre du bureau de l'Association nationale des supporters, c'est au fond un peu ce que vous dites, vous, le sport, le foot en famille, le foot dans le stade pour l'expérience, ça existe encore, c'est encore là, mais qu'est-ce que ça pèse face à tout le reste, et notamment face à l'argent monumental qui passe par l'intermédiaire des plateformes, par exemple? Qu'est-ce que vous pesez encore, vous, qui allez vous installer sur les gradins?
On pèse. Il y a eu notamment un effet post-Covid où les gens sont beaucoup rassemblés au stade parce qu'avec le besoin de se retrouver, ce qui a permis notamment à l'Association nationale des supporters d'avoir un poids plus important auprès de la Ligue de football professionnel et auprès des parlementaires pour faire un petit peu plus peser notamment des sujets qui nous sont chers comme la pyrotechnie festive, les tribunes debout, qui a été un long travail mené par l'instance nationale du supporterisme. Donc les supporters ont toute leur place puisqu'il y a des espaces qui sont dédiés pour. Maintenant, au sein du football français, depuis deux ans, il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, notamment, comme vous en avez parlé juste avant, l'arrivée des multipropriétés qui font mourir à petit feu ou très rapidement certains clubs. Et puis un peu la gestion du football français, comme on l'a vu là très récemment avec les dernières élections qui ouvrent grand les portes aux multipropriétés. Mais il y a des espaces maintenant qui existent pour pouvoir permettre une sorte de pare-feu et puis un peu une lutte comme ça en fil rouge contre des sujets qui nous sont chers, mais qui sont chers à tous les supporters, encore plus depuis le post-Covid.
François Carnero, j'ai posé la question autrement. Est-ce qu'il y a deux footballs vraiment? Celui dont vous parliez tout à l'heure, celui où on va en famille, on y va toujours et on s'intéresse toujours aux résultats de Sochaux, même s'ils sont descendus trop loin. Et puis l'autre, celui de quatre clubs français, parce qu'au fond, on regarde que ces quatre-là, parce qu'on sait qu'il va avoir une chance européenne, donc on a un œil particulier. Et puis évidemment, de ces passages de foot européens, parce que là, pour le coup, on a l'impression que ça mettra un peu d'enjeu.
Il n'y a qu'un seul football. C'est un sport dans lequel deux équipes s'affrontent avec 11 joueurs ou 11 joueuses et l'objectif est de marquer un but de plus que l'adversaire.
Là-dessus, on est d'accord.
Maintenant, ce qui est différent, ce sont les écosystèmes du football. Et là, en effet, c'est un écosystème pour le football professionnel qui est dominé par 4 à 5 clubs, les clubs européens, ceux qui se qualifient quasiment systématiquement pour la Ligue des Champions, ou en tout cas une année sur deux en moyenne, ceux pour lesquels l'équipe ou d'autres journaux vont donner le score et en oubliant les scores des autres équipes de Ligue 1. Oui, il y a des arbres qui cachent la forêt.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Xavier, pardon.
En fait,
vous vouliez réagir.
Le corollaire de la multipropriété, en fait, c'est, vous en avez parlé, c'est l'expérience stade. C'est un mot, moi, qui m'effraie, l'expérience stade, parce qu'en fait, dans le même public aujourd'hui à Saint-Étienne, à Sochaux, alors, ça, c'est des petits exemples chez nous, entre guillemets, mais à Liverpool, en tous des grands clubs en Angleterre, vous avez ce public qui tient la culture, qui a l'identité de ce club depuis 50 ans, la grand-mère qui venait, le papa qui venait, ça, on va au stade de père en fils, la fameuse... et vous cohabitez avec des touristes de Tokyo, de Séoul, des tours de stade qui viennent.
Mais
de...
Mais c'est grave, docteur, ou pas?
Bah alors moi je vais vous dire, et Kylian je pense va vous dire la même chose, ça tue l'ambiance parce que si c'est pour venir dans des bidets, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, moi je suis quand même habitué des tribunes qui bougent, j'aime ça. Quand ça bouge pas, c'est quand même très ennuyant. Je vais pas voir en Angleterre du football, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a aucune ambiance.
Parce qu'il y a trop
ambiance.
De touristes en fait, vous voulez dire.
Et aujourd'hui, ils cohabitent aussi dans les publics en France. Alors parfois, ça permet de sauver des modèles, ça permet de sauver des clubs aussi. Mais dans le débat de l'identité, voilà, c'est identité face à multipropriété. En réalité, la multipropriété va sauver des clubs, mais va tuer parfois l'ADN de ces clubs.
Allez, on avance au standard, mais on reviendra sur ce que vous dites. Peut-être grâce à vous, Olivier, d'ailleurs. Bonsoir.
Bonsoir, Fabienne.
On vous écoute, Olivier.
Oui, donc j'écoutais vos invités, effectivement. Et moi, effectivement, en écoutant vos invités, je fais bien la différence entre ambiance au stade et le foot dans sa globalité, hein, dans le sport, ce qu'il représente. Moi, je pense que la popularité du foot, elle se ressent surtout au niveau amateur, jusqu'à peut-être les semi-pros, CFA, national encore. On arrive encore à avoir une espèce de popularité du foot. Et plus, effectivement, le niveau monte, plus on va vers une professionnalisation et plus on grimpe. J'ai l'impression qu'on a un peu changé de monde. Je pense, j'ai une pensée aujourd'hui pour Didier Roustan, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et voilà, il représente aussi une époque. Vous voyez le lien qu'il y avait entre certains journalistes et les footballeurs professionnels. Maintenant, effectivement, pour certains journalistes, c'est devenu un peu très difficile d'avoir des bonnes informations pour pouvoir nous les communiquer à nous spectateurs.
J'ai l'impression
effectivement que les clubs dans leur ensemble, les gros clubs sont devenus surtout des boîtes de communication, quoi. C'est un peu triste.
Merci beaucoup, Olivier, pour votre participation. Xavier Monferrand, vous, avec votre carte de journaliste, quand vous entrez dans un stade, je repense, parce qu'on en reparlait tout à l'heure pendant le flash de 17h, à Kylian Mbappé, le football, il a changé. Et en même temps, ça dit, bah ouais, mais voilà, c'est à prendre ou à laisser, les gars, le football, il a changé. C'est aussi ça que j'ai entendu, moi, dans cette phrase-là.
Ouais,
parlait d'argent, on parlait de sponsors, on parlait de tout ça à ce moment-là. Bah, le foot, il a changé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plus le foot de papa. C'est ça que j'ai entendu. C'est bien triste, mais c'est ça qu'on a entendu.
C'est un modèle qui se renouvelle. Ça reste le sport numéro un, en fait. Ouais. La base de notre discussion, quand même. C'est que malgré tout, malgré ce qu'on a même pu vivre, cette parenthèse enchantée des JO qui est incroyable, on a vécu des moments très forts, qui ont ressoudé la nation aussi. On a montré à quel point, tous unis, on était très forts. Mais au lendemain de tout ça, le foot reste le moteur du sport français, le sport numéro un, sur les terrains, dans les économies, dans les consciences, dans les familles, dans les identités, dans tout. Parfois, ça nous plaît pas, mais et pour parler des clubs, comme disait notre auditeur, c'est devenu parfois un calvaire de travailler avec des clubs.
Ah ouais.
Un calvaire.
C'est-à-dire, vous n'avez pas d'accès.
C'est très
fait.
Compliqué. Ah ouais. Ouais. On a zéro accès. Presque parfois, on est moins bien considéré. Voilà. On est de toute façon, je vais dire parfois, non, on est moins bien considéré qu'un spectateur parce qu'on est là pour déranger. Donc, il faut absolument, nous mettre de côté. C'est très très compliqué de travailler avec.
Je voudrais qu'on y revienne là-dessus. Kylian Valentin, par exemple, est-ce qu'on les approche les joueurs un peu, quand on est un vrai supporter, ils savent que vous êtes là tout le temps, vous allez au stade, vous les connaissez tous. Est-ce que vous avez senti que quelque chose a changé là aussi? Alors je sais pas si c'est le cas à Nancy, vous êtes à Nancy, peut-être qu'ils sont toujours très sympas à Nancy, mais...
disons qu'on est, en effet, comme on est en national, c'est une division qui est différente du...
Ouais, vous pouvez leur taper sur
les niveaux. Et on peut un petit peu revenir sur l'expression du foot à papa, il y a encore un peu d'accessibilité dans cette division-là. Même si on ressent, comme ça peut être le cas à Sochaux, à Nancy, à Dijon, à Valenciennes, ces clubs qui descendent en national, le côté professionnel qui existait auparavant, et puis ces joueurs qui sont formés différemment que par le passé, avec des cours de communication, donc beaucoup de langue de bois. Donc dès le national, on le ressent, et plus on monte dans les divisions, plus c'est prégnant. Il y a, c'est vrai, un football qui évolue. Pour reprendre aussi un petit peu ce qui était dit tout à l'heure, il y a qu'un seul football, mais on le voit avec la doctrine un petit peu de la multipropriété et puis de l'expérience stade. On se retrouve un peu avec deux footballs football, et donc notamment des joueurs qui se retrouvent de plus en plus déconnectés et qui passent d'un club à un autre et qui n'ont plus le temps de s'attacher en fait au club,
à la ville, à la région, aux supporters, est-ce que ça dit,
et qui du coup passe d'une année à l'autre, d'un club à un autre, et avec la multipropriété ça prend de l'essor. Il y a un exemple qui est criant notamment à Strasbourg depuis 2 ans, où il y a des joueurs qui arrivent, qui signent, et l'été n'est pas fini, qui partent dans un autre club pour 1 an, 6 mois, avant de revenir, pour ensuite aller dans un autre nouveau club. Donc il n'y a plus le temps de l'attachement et de cette identité pour les joueurs et aussi pour les supporters envers les joueurs. Donc ça crée un foot à 2 vitesses, et c'est ça qui est compliqué dans certains clubs, certaines villes maintenant.
Et savoir aussi, François Carnero, pour les footballeurs, qui sont les gens qui sont là dans le stade en fait ? C'est quoi l'histoire de ces gens qui sont en train de m'applaudir ? C'est quoi l'histoire de ce lieu, de cette région-là ?
On ne peut pas
ignorer quand on est à Lens où on est, par exemple, y compris géographiquement.
Que les clubs aient parfois un manque de stratégie historienne. C'est clair. Le nombre de musées, par exemple, de clubs est très faible en France. Il y a le musée de Saint-Etienne, mais il y a très peu de musées.
C'est pas l'histoire qui les intéresse, c'est le marketing.
Exactement. C'est pas l'histoire qui les intéresse. Maintenant, ça dépend quand même. Cette proximité avec le public dépend grandement aussi des infrastructures. Lorsque l'on a des joueurs qui sont enfermés dans leur citadelle, je pense par exemple à Lens, à la Gaillette, je pense au LOSC, au domaine de Luchin, c'est sûr que c'est difficile d'avoir accès à eux. En revanche, lorsque l'on a des infrastructures qui sont en ville, et c'est le cas par exemple de Sochaux, dont le stade d'entraînement se trouve au stade des Forges, en pleine cité ouvrière, là il est possible pour les gens d'aller voir et d'aller parler aux joueurs.
Est-ce que c'est le cas à l'OM par exemple ? Je dis ça parce que pour le coup, un stade en pleine ville, le Vélodrome est carrément en pleine ville.
Mais pareil, le centre d'entraînement c'est une citadelle, hein, la commanderie c'est pareil. Alors le public marseillais se sent quand même plus propriétaire de l'OM que dans d'autres clubs où des supporters, de par la sociologie, de par des tas de raisons, sont moins vindicatifs, moins tenants de l'identité. L'OM, c'est quand même très particulier.
Non, mais ça parle encore, l'identité. Je pense à Pernod Ricard qui doit renoncer au PSG, par exemple. Non, mais honnêtement, ça parle de ça aussi, non ?
Et maintenant,
Monsieur l'historien, est-ce que ça n'a pas du sens, quand même ?
Justement, pas idéaliser ce principe d'identité. Ouais. Des transferts de joueurs qui changent de club chaque année, il y en a depuis le football professionnel. Ouais. J'ai immédiatement l'exemple d'Alexandre Villaplane, qui a été le pire des salauds pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a accumulé les clubs du Sud lorsqu'il avait sa carrière professionnel ou amateur marron à gérer. Okay. Non, l'identité, c'est très, très idéalisé.
Oh, laissez-moi avoir encore quelques idéaux hein, quand même liés au football. Voici Mohamed. Bonsoir Mohamed.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, je voulais poser une question. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire comme en Angleterre et la Premier League. Il y a énormément de matchs le week-end, le samedi et le dimanche. Il y a un match à 13h30, un autre à 15h, un autre vers 16h et un autre vers 17h30, que ce soit le samedi et le dimanche. Et là, on aurait beaucoup plus de stades remplis avec des familles, des enfants. Et c'est pas le cas en France. Il y a que des matchs quasiment en soirée, très peu de matchs le week-end. Voilà. Et pourtant, le football, on sait que c'est le sport numéro 1 en France. Il y a un engouement énorme et c'est un sport de passion.
Merci Mohamed, merci beaucoup. C'est d'abord vers vous que je vais me tourner, Kylian Valentin, vous, membre du bureau de l'Association nationale des supporters, notamment parce que je sais que les supporters ont râlé s'agissant de la Ligue 2, parce que les matchs sont le vendredi, pour pouvoir plaire à la plateforme qui les diffuse. Pour le coup, je pense que ça vous parle ce que dit Mohamed là, non ?
Ah oui, entièrement. La Ligue 2 était diffusée depuis quelques années le samedi et cela convenait à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est repassé sur le vendredi avec une très légère évolution de beIN Sport pour mettre un match le samedi. Mais en effet, comme le dit Mohamed, la Ligue 1 qui est repassée également le samedi et le dimanche à des horaires plus accessibles pour tout le monde, pour également ne pas empiéter non plus sur le football amateur et que tout le monde puisse se rendre au stade, on le voit, ça remplit beaucoup plus de stades. Donc il y a une vraie question qui se pose sur un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure avec l'économie du foot français et comment elle a envie un petit peu d'inclure les supporters là-dedans, notamment avec la programmation des matchs, plus particulièrement sur la Ligue 2 cette année, qui pose beaucoup de questions puisque c'est un championnat qui depuis 2-3 ans aussi devenait de plus en plus attractif et remplissait de plus en plus les stades. Donc, mais ça, ça appartient malheureusement aux diffuseurs et à la Ligue de football professionnel qui n'entendent pas depuis le début de la saison les revendications des supporters de Ligue 2 sur ce sujet-là.
Et aussi, quand on est en Ligue 1, Xavier Monferrand, enfin, les abonnements, 29,90€, je crois que ça a baissé un peu, effectivement.
Oui, oui.
Voilà, parce que justement, il y avait une fronde. Il faut avoir au moins, en fait, si je regarde bien, il faut avoir au moins trois plateformes si on veut regarder la totalité des matchs aujourd'hui. Qui peut se payer trois plateformes?
En fait, je
moins pirater.
Je pense que DAZN est en train de se paye un peu un ras-le-bol et une accumulation d'années. Il faut prendre Canal, il faut prendre Bein, et puis maintenant c'est Amazon, et puis c'est plus Amazon, c'est DAZN. Je pense que là, on est arrivé dans un goulet d'étranglement où les gens ont dit stop, assez, il y en a marre de vos histoires. Toute façon, si la priorité des diffuseurs c'était qu'il y ait des gens dans les stades, ça se saurait.
Alors voilà.
Bah, l'hypocrisie, ils sont là pour mettre ça dans un catalogue. C'est mieux dans le catalogue vendredi parce que c'est pas en conflit avec d'autres choses qu'ils ont achetées. Et voilà. Et ça, c'est terrible. Je suis, moi, le premier, je suis né dans les tribunes des stades. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Et ça me désole. Mais il faut. Voilà, c'est pas d'hypocrisie, c'est uniquement pour des questions de catalogue, pour pas que ça rentre en conflit avec d'autres matchs qu'ils ont achetés en Allemagne, en en Angleterre, en Italie, etc.
Ça veut dire, François Carnero, que effectivement, si à terme, il y a des gens pour regarder et qu'il n'y a pas grand monde dans les stades, non seulement le diffuseur, il s'en fiche, mais l'actionnaire aussi, non, au fond, au bout du bout.
Alors, l'historien n'est pas prophète. Hein,
donc,
non. Je ne peux pas...
Mais vous, oui.
Peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a également l'expérience Mediapro.
Ouais.
Pendant le Covid, pendant le confinement.
Je les avais oubliés.
Et
ben oui.
Mediapro a montré aux spectateurs que la Ligue de football, en fait, menait une politique économique qui était totalement spéculative, à laquelle peut-être qu'un grand nombre n'a plus envie, n'ont plus envie de participer. Mais c'est aussi l'occasion de redécouvrir la magnifique voix de Xavier Monferrand lorsqu'il commande des matchs.
Mais c'est intéressant, Kylian Valentin, que François Carnero ait parlé du Covid, parce que justement, c'est exactement le bon exemple, en fait. Pendant le Covid, où il n'y a pas de spectateurs, et on sait pourquoi, on a vu ce que c'est. Il y a eu des matchs, on a vu ce que c'était qu'un match avec personne autour. Intérêt zéro. Non, mais honnêtement. Allez-y, Kylian et Xavier, vous répondrez après.
Mais c'est ce qui s'est passé, pour revenir sur la question du catalogue et de la programmation, et qui est intimement liée par rapport à ce que vous dites par rapport au Covid. L'Italie, à un moment donné, a eu une désertation des stades suite au catalogue et à l'abonnement de la télévision qui était proposé. Et en fait, les clubs et aussi le programmateur se sont insurgés de ce qui se passait, parce qu'en fait, il n'y avait plus du tout d'ambiance. Et donc, les gens ne regardaient plus. Il y avait de moins en moins de monde aussi dans les stades. Et en fait, le championnat italien a réinventé un petit peu les choses pour que du coup, les gens reviennent plus au stade. Et que pour ceux qui regardent à la télé parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils trouvent également leur intérêt. Donc, par rapport au championnat français, c'est d'autres interrogations qui se posent, parce que en effet, le Covid, on a vu qu'il n'y avait aucun intérêt. On voit également que la Ligue de football professionnel, par le biais de la commission de discipline, ferme des tribunes toutes les semaines suite à des animations festives, et je dis bien festives, et qui empiète également sur le spectacle du championnat de France.
On est en train de se demander dans le téléphone sonne si le foot est toujours populaire, avec François Carrero qui est historien, avec Kylian Valentin que vous venez d'entendre, qui est membre du bureau de l'Association Nationale des Supporters, avec Xavier Monferrand qui est journaliste à la direction des sports de Radio France, et avec vous Étienne qui est à Toulouse, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Alors, je suis pas vraiment d'accord avec vos invités qui disent que les diffuseurs n'ont pas d'intérêt à ce que les stades soient remplis, parce qu'il y a un sujet qui manque dans le débat, c'est la publicité. C'est-à-dire que un diffuseur qui va pouvoir ensuite vendre de la publicité pour des maillots, pour un équipementier sportif, pour un célèbre fast-food qui désormais est le partenaire officiel du championnat de France, il a un intérêt à ce que le spectateur se déplace. Donc pour moi, il y a vraiment cette incitation de la part des diffuseurs à ce que les personnes se rendent et les supporters se rendent au stade.
Sauf que si on filme la pub, est-ce que ça revient pas au même?
Non, c'est pas tout à fait la même chose.
La pub là-dedans, Xavier Monferrand,
C'est le modèle des diffuseurs, mais après qu'il y ait 28 000 ou 32 000 personnes au stade, à vrai dire, de toute façon, voilà, je pense que ça change pas grand-chose. Évidemment, si le championnat était à huis clos parce qu'il y avait personne dans les stades déjà, ça s'entend, donc ça abîme le produit télévisuel. Donc là, là, ça les gênerait un peu quand même, hein, de jouer dans ce que je disais, dans des bidets ou des éviers, ça serait pas tout à fait pareil.
À quoi ça sert cette nouvelle formule de la Ligue des Champions? Qu'est-ce que c'est censé amener justement en termes de public, en termes d'intérêt, en termes de tout ça? Est-ce que c'est l'espèce d'intermédiaire quand la fameuse Super League il y a quelques années a échoué? Est-ce que c'est l'espèce d'intermédiaire qu'on a trouvé pour qu'il y ait plus de matchs sans pour autant avoir l'air d'être dans son petit quant à soi de club ultra riche? C'est à ça que ça sert, Xavier Monferrand?
Ça sert à faire plus d'argent.
Ouais, voilà.
Plus de matchs égale plus d'argent, tout simplement.
Il y a 36 équipes au 32, il y a une espèce de championnat parallèle en fait, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Moi.
Bah, c'est ça, en fait c'est l'UEFA ou la FIFA avec sa Coupe du Monde des clubs qui fait rajoute ça à la fin de la saison. Bah, c'est une façon de dire, oh là là, Super League, là, vous allez voulu nous piquer notre business, on va pas se... c'est nous les patrons. Donc en fait, ils créent leur forme de Super League qui n'en est pas encore une, mais qui tend à le devenir. De toute façon, c'est comme ça que le football de demain se jouera. Il y aura une Super League qui va finir par tuer les petits clubs parce que le modèle économique peut s'effondrer, et cette même Super League finira peut-être par sauver les petits clubs en créant des divisions européennes. Voilà, c'est peut-être un système qui est en train de se mettre en place.
Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure, et c'était Kylian qui le disait notamment, Kylian Valentin, mais aussi l'un de nos auditeurs, sur le fait que les joueurs étaient parfois difficiles d'accès, le fait qu'il y en avait certains qui étaient dans une espèce de bulle, ce qui n'est pas le cas des autres. Je disais tout à l'heure en introduction que moi, ça m'a assez étonné qu'on ne les voit pas pendant les JO, dans les tribunes, je veux dire, tout simplement, applaudir les judokas, applaudir tout ça. Et la conclusion que j'en ai tirée, vous allez me dire si je me trompe, c'est qu'il faut protéger, préserver, parce qu'effectivement, s'il y en a un qui se pète une cheville, c'est la fin du monde. Alors, est-ce que c'est ça la vraie raison?
Pour beaucoup, ils avaient déjà repris la route de l'entraînement. Donc, ils étaient déjà au travail par ailleurs. Faut pas oublier que ce sont des marques pour les clubs, ou pour les sponsors, ou pour les ligues de foot. Donc, ils n'ont pas une totale liberté, de leurs gestes. Ils ont une liberté,
c'est quand même très
conscience, ils ont une liberté, mais ils sont extrêmement contrôlés, ils sont employés.
Mais c'est quand même très très triste. Enfin, je veux dire, en plus, aller au JO, pardon, mais si on les voyait dans une boîte de nuit en train de boire de la bière au goulot, je dis pas, mais enfin, dans les JO, en applaudissant du handball, est-ce que vraiment ça casse l'image?
À 14h30 pour le match, ils ont un entraînement à l'autre bout de l'Europe. Donc, pour le coup, là, c'est un peu compliqué en termes de calendrier, je pense, tout simplement.
C'est vraiment juste une histoire de calendrier.
Mais le calendrier, c'est une question cruciale, en fait. C'est une question qui rappelle la volonté d'indépendance de la FIFA face au CIO. Faut pas oublier que la Coupe du Monde, elle naît en 1930 justement parce que la FIFA veut gagner de l'argent, veut gagner de la puissance plutôt, face au CIO qui n'autorise pas les joueurs professionnels à intervenir, à être sélectionnés, alors que la FIFA est en train d'accepter le football professionnel, enfin que les fédérations nationales, en Europe en particulier, sont en train d'accepter le professionnalisme. Donc là, il y a vraiment une volonté de rester indépendante et de conserver la mainmise sur le football, tout en accordant quand même quelques ersatz, donc le tournoi féminin, un tournoi de jeunes amélioré pour le tournoi masculin, voilà.
Mathieu est avec nous, bonsoir Mathieu. Mathieu, on vous écoute.
Mathieu. Oui, bonsoir.
Ah, formidable. Bonsoir Mathieu. Allez-y.
Ouais, je voulais faire une intervention sur le fait qu'on vit un parallèle maintenant entre le football et la Formule 1. Depuis quelques années maintenant, la Formule 1 se réduit à donner le plus d'argent à ceux qui sont arrivés devant. Donc ça va être Red Bull, Ferrari et après 2-3 teams derrière. Et le marché a totalement exclu les teams privés. Ça fait 15-20 ans qu'on n'a plus de Jordan, de Hart, donc aussi bien pour les châssis que pour les moteurs. Et on a un championnat où les top pilotes et les top ingés vont être sélectionnés parmi les top teams. Et on est en train de se diriger totalement vers ça. Il n'y a plus d'intérêt à suivre la F1. C'est complètement biaisé depuis le début. Et on a vraiment ce parallèle. On n'a plus du tout l'aspect Loulou Nicolin à Montpellier, Gervais Martel à Lens, qui ont fait des fortunes industrielles, qui injectent leur argent localement pour amener une dynamique. C'est fini, en fait. C'est tout se passe avec des financiers et 4 ou 5 équipes, ou voire 2 ou 3 selon comment on va limiter le périmètre. Et la Coupe d'Europe de foot, c'est symptomatique. Donc si vous voulez regarder où va le foot, regardez la Formule 1. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Quoi.
Merci beaucoup Mathieu, la comparaison est intéressante, François Carnero. Et en effet, d'ailleurs, elle a beaucoup perdu son intérêt, la Formule 1, parce qu'à la fin, c'est toujours le même qui gagne. Alors il y a eu d'autres raisons qui ont fait péricliter ce sport, mais néanmoins.
Cela dit, le ballon va encore moins vite que la voiture.
Pour l'instant.
Mais enfin, cet investissement privé des Martel, des Nicolin, des Golas et compagnie, il n'a pas totalement disparu, mais c'est vrai qu'il n'est plus, ça n'est plus le modèle dominant. Mais il faut aussi se souvenir que dans les années 60-70, le football français avait déjà subi une crise de clubs qui ont poussé un certain nombre de clubs à la faillite, qui ont été pour certains repris au dernier moment. C'est le cas de l'Olympique de Marseille, c'est le cas du RC Lens ou du LOSC qui ont eu leur statut amateur à certains moments, à la toute fin des années 60. Et il a fallu, pour beaucoup, une municipalisation du football. Là, on est juste dans une autre ère économique. Voilà, c'est l'ère de l'ultralibéralisme.
En fait, vous disiez la phrase de Mbappé, le football, il a changé, mais le propriétaire du football, il a
bien
changé.
Bien sûr, c'est ça.
En fait, maintenant, c'est des consortiums, des gens qui n'ont même pas vu un match de foot, qui font des investissements, qui vont les retirer quand...
C'est ce que vous disiez sur le fonds de pension, qui regarde à la fin et dit finalement, ça ne me rapporte pas tant que ça. Voilà, bon, il change. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est le principe même d'un fonds de pension.
C'est pas faux.
Hélas, par ailleurs. Vous vouliez intervenir là-dessus, Kylian Valentin?
Oui, on voit qu'il y a encore des clubs qui arrivent à survivre un petit peu dans le championnat français avec des actionnaires locaux. Ce qui biaise un petit peu par rapport à la Ligue 1, c'est l'hégémonie du PSG depuis l'arrivée du Qatar. Mais par exemple, l'année dernière, le Stade Brestois a fait une saison en haut du tableau alors qu'ils ne dépendent pas non plus de consortium, etc. On voit que à l'inverse, l'Olympique Lyonnais qui dépend d'une multipropriété rencontre des difficultés depuis 2 ans. Donc il y a encore ce football-là qui est possible avec des actionnaires locaux. Je pense également à Reims et puis d'autres clubs qui sont en train de se réinventer autrement aussi localement, qui peut arriver dans le football français. Au niveau européen, c'est en effet différent parce que la Ligue des Champions existe avec l'ancien format et le nouveau depuis des années où en effet c'est souvent les mêmes et avec de plus en plus d'argent. Mais au niveau français et même dans d'autres championnats, c'est encore possible un petit peu que les choses se passent différemment qu'avec le gros qui vient gagner. Je pense que une fois de plus, l'hégémonie du PSG avec l'investissement du Qatar biaise un petit peu notre vision sur qu'est-ce que peut être le championnat français et en effet système de Super League.
Est-ce que ça sera toujours le cas maintenant que Kylian Mbappé est parti? D'ailleurs, Xavier Monferrand, si l'intérêt, c'est une histoire de vase communicante, si l'intérêt pour un club est un peu moindre, peut-être qu'un autre va en bénéficier. Est-ce qu'on s'attend à ça ou pas du tout?
C'est une des questions qu'on se pose même en interne d'un point de vue éditorial et tout, par rapport au Paris Saint-Germain. C'est vrai que le départ de Kylian Mbappé est une césure, une rupture dans le traitement du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que j'ai pas encore la réponse à cette question, mais c'est une vraie question.
Eh ben, écoutez, je suis contente de vous l'avoir posée. Maëva est là. Bonsoir, Maëva.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Moi, je voulais vous appeler parce qu'il y a très peu de femmes qui ont réagi dans l'émission et plus globalement, il y a très peu de femmes dans le milieu du football. Il y a très peu d'arbitres féminines, il y a très peu de coachs féminines, etc. Et on parle d'un sport populaire, mais en fait, on oublie la moitié de la population, les femmes. Voilà, moi, je suis vraiment très fan de foot, mais cette ambiance très viriliste, très masculine dans les stades, dans les bars, etc., me met pas forcément très à l'aise. Et vous compariez en début d'émission la ferveur populaire des JO. Bah, au JO, il y avait les hommes et les femmes au même endroit réunis. Et je trouve que c'est un petit peu moins le cas dans les stades de foot, malheureusement.
C'est le moins qu'on puisse dire que c'est pas du tout le cas dans les stades de foot, François Carrero, non?
Mais non seulement c'est pas du tout le cas, c'est pas suffisamment le cas dans les stades de foot, mais en plus, il y a de vraies questions de genre qui se posent aujourd'hui. Et je pense en particulier au problème marseillais avec un joueur qui a été acheté coupable de violences sexuelles. C'est extrêmement gênant, à mon sens, que ce joueur soit adulé comme il l'est aujourd'hui et que le club ne réagisse absolument pas. Là, il y a quelque chose qui se passe qui concerne la moitié de l'humanité. Alors, on n'est plus au temps de Zachary Baton où il n'y avait que des garçons, que des hommes qui jouaient au début du XXe siècle. Il y a aussi des femmes qui jouent et cela pose la question de la médiatisation aussi des championnats féminins. J'évite de parler de football féminin, on ne parle pas de piano féminin,
non,
ça reste du football.
Vous avez bien raison.
Donc ça pose cette question de la médiatisation, mais ça pose également la question des femmes. Alors, à l'exception de quelques clubs, et je pense en particulier à Strasbourg, au Racing Club de Strasbourg,
notamment.
De quelques entraîneurs, mais Corinne Diacre a fait une toute petite expérience à Clermont, et ensuite elle est devenue sélectionneur de l'équipe de France féminine. Mais il y a très très peu d'entraîneurs femmes jusqu'alors dans les équipes masculines, pour les équipes masculines.
Vive la fraîcheur du foot féminin, nous dit Denis sur WhatsApp. Regret de ne pas en voir plus. Il manque beaucoup de visibilité que les médias en donnent, dit-il. Et c'est vrai qu'il y a eu une période, mais pardon de le dire comme ça, il y a eu une période où on s'est dit c'était presque une mode en fait. Et puis, est-ce qu'on est un peu redescendu en matière de médiatisation du foot féminin ?
C'est un peu lié au résultat de l'équipe de France.
Aussi.
Qui est une locomotive, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est la question. Ouais. C'est une locomotive pour le football dans tous les pays, particulièrement en France. Et c'est un vrai problème, les résultats de l'équipe de France féminine. Ça n'a pas porté ce qu'on attendait que ça porte.
Voilà. Est-ce que ailleurs, dans les pays où ça fonctionne, où l'équipe fonctionne mieux, ça a vraiment porté, il se passe vraiment quelque chose ou pas ?
Parfois, dans certains pays, c'est quasiment même le monopole du football, l'équipe féminine nationale. Par exemple, aux États-Unis, c'est quand même l'équipe féminine qui l'emporte sur l'équipe masculine.
Ouais, mais voyez, c'est ce qu'on disait sur le fait de se mettre en avant, que ce soit au JO ou ailleurs. Megan Rapinoe s'est mise en avant terriblement. Elle fait de la politique, mais
Megan Rapinoe, fin de sa carrière.
Elle a peur de rien. Et même pendant, à la fin de sa carrière, oui, mais elle jouait toujours.
Oui, mais elle avait déjà fait l'essentiel de sa carrière.
Pour le reste,
elle n'a pas risqué. Sa carrière.
Voilà. Oui, absolument. Et vous faites bien de le dire comme ça, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui encore, effectivement, on risque sa carrière à dire un certain nombre de choses. Écoutez, vive le foot pour ceux qui aiment le foot, et le sport en tout cas, Xavier Monferrand, pour vous, parce qu'on adore vous écouter. Merci beaucoup.
Merci
à tous les trois. Merci à tous pour vos nombreux appels.